L'Hebdo Patrimoine, l'émission dédiée aux professionnels de la finance, présentée par Bérénice Deville et Fabrice Coustet.
Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur Radio Patrimoine pour ce nouveau numéro de l'Hebdo. Radio Patrimoine, je vous rappelle, c'est la première web radio 100% dédiée au patrimoine. Chaque semaine, on décrypte ensemble l'actualité économique, financière, immobilière. Et on va s'intéresser cette semaine à une thématique, celle du co-living, mais pas n'importe lequel, un co-living vert, éco-responsable, intergénérationnel, on peut le dire peut-être un petit peu haut de gamme, et j'ai le plaisir d'animer cette émission en compagnie de Bérénice Deville. Bonjour Bérénice.
Bonjour Fabrice, comment allez-vous?
Eh bien ça va très bien, très fraîchement, hein. On est passé directement de l'été oui. Qui pointait le bout de son nez à l'hiver.
J'ai vu des flocons ce matin quand je me suis levée, je me suis dit bon, il neige. Ben
voilà, allez, on remballe le barbecue, les tongs.
C'est ça.
Et on reprend la raclette, les moon boots et les anoraks. Alors, on est en compagnie, Bérénice, de spécialistes qui viennent de se lancer. Ils sont deux cofondateurs et ils sont à la ville comme à la campagne, ou plutôt à la ville comme au bureau.
Tout à fait, on reçoit donc sur notre plateau Despa Gabriel. Bonjour.
Bonjour.
Directrice générale de Kula Group. Et Philippe Gabriel, bonjour.
Bonjour.
Président de Kula Group.
En effet.
On va tout savoir donc de cette nouvelle proposition, Kula, effectivement, avec ce co-living vert, éco-responsable, intergénérationnel. Et puis, on aura aussi votre point de vue, votre chronique, Bérénice, sur ce co-living
qui,
c'est vrai, est en train de bouleverser un petit peu le paysage des usages, en tout cas en ce qui concerne l'immobilier. Voilà pour le sommaire, l'Hebdo Patrimoine spécial co-living. C'est parti.
L'Hebdo Patrimoine, l'émission dédiée aux professionnels de la finance sur Radio Patrimoine.
Le co-living, on en parle de plus en plus, Bérénice.
Oui, tout à fait. Alors, avec une étude qui est sortie de la part de Studapar. Je ne sais pas si vous connaissez Studapar. En fait, c'est de la réservation de logements en ligne, donc réservation de logements moyenne et longue durée. Et voilà, ils ont fait une étude parce qu'ils ont remarqué que le co-living était de plus en plus demandé. Et justement, il y a une hausse de 200% des demandes pour ce type de logement sur la plateforme, ce qui est énorme, hein, 200% depuis 2 ans. Donc on voit vraiment, ça a commencé il y a 2 ans, l'année dernière ça s'est vraiment intensifié. Et alors selon une étude de BNP Paribas Real Estate, le marché du co-living a gagné 7 points de croissance en 1 an, ce qui est énorme, je vous l'ai dit, donc l'année dernière ça s'est vraiment intensifié. En 2021, il représente plus de 8300 places en France, donc 8300 lits, contre 5000 en 2019. Et grâce à sa croissance exponentielle, on estime qu'il devrait atteindre 14500 lits d'ici 2023. Donc c'est quasiment le double.
D'accord. Donc c'est un mode de colocation qui a le vent en poupe.
Ouais, et juste pour finir, c'est encore difficile à déterminer avec précision, hein, mais parce que c'est assez nouveau comme phénomène, on ne connaissait pas avant, mais le rendement d'un investissement en co-living atteint 10%.
On va en parler justement avec nos invités. On démarre avec vous, Philippe, donc le président de Kula Group. Voilà, en un mot, le co-living, pour ceux qui n'ont jamais entendu parler, bon, moi, les plus anciens, dont je fais peut-être partie, parler de colocation, c'est quoi la différence entre co-living et colocation?
Effectivement, quand on parle de co-living, on a plutôt à voir des images qui correspondent à des films célèbres qui étaient le fait de se retrouver en Erasmus et
l'auberge espagnole, par exemple.
Ouais. Hein, de se retrouver directement dans tous ensemble, plutôt jeunes et autres, et de partager un espace commun. Ça, c'est l'histoire plus particulièrement. Maintenant, le co-living est arrivé en France, on va dire en 2017. Il y a des États-Unis, comme beaucoup de choses. La volonté était effectivement de pouvoir donner des espaces de lieux partagés, mais pas que d'espaces de lieux partagés, donner également des services qui sont annexes à cette location, c'est-à-dire de permettre aux gens de pas de penser à leurs meubles, à leurs abonnements, que ce soit les différents services qu'ils peuvent avoir, que ça peut être Internet, ça peut être Netflix ou d'autres types de plateformes. Donc ceci a été développé et on a plutôt indiqué vers une population de jeunes actifs. Voilà la façon dont les choses se sont mises en place. Et aujourd'hui, effectivement, il y a une appétence assez importante des institutionnels pour
positionner
sur ça. Avec la volonté aujourd'hui plutôt d'être sur des opérations qui sont assez importantes en volume. Qui pour moi s'apparente plus à de l'appart-hôtel ou autre chose. Nous, on est sur un marché un peu différent dans notre positionnement. Mais voilà la façon dont les choses sont arrivées au niveau français, au niveau du co-living.
Juste une petite précision, donc il y a beaucoup plus d'espaces de convivialité, donc il y a des cuisines, il y a des salons, des salles de sport. Qu'est-ce que vous proposez encore?
Alors, c'est ce que nous propose nous, ou ce que propose
vous, oui, en particulier, enfin le co-living, et puis vous plus précisément.
Nous, la particularité, elle a été sur différentes choses, puisque le co-living est une partie importante effectivement de notre développement, mais on est plus dans quelque chose qui va être la création d'une communauté et qui va être partager une philosophie. La philosophie, elle est sur les différents, je dirais, tendances qu'on peut avoir à l'heure actuelle. Les gens, le co-living a été, je dirais, un révélateur, hein, un peu comme quand vous preniez une photo argentique, quand vous la mettiez dans un bain, bah, les choses ressortaient. Bah, le co-living, aujourd'hui, et la pandémie qu'on a pu avoir, a fait ressortir un petit peu les différentes tendances. Les tendances, elles sont lesquelles, plus précisément? Les tendances, elles sont d'avoir la volonté d'avoir de l'espace, premièrement. Les gens se retrouvent enfermés chez eux dans de petits logements, donc ça a été un peu compliqué. La deuxième tendance, c'est de garder du lien social. Là aussi, ça a été des choses qui ont été un peu perturbées. La troisième tendance, c'est effectivement avoir un effet, avoir une influence sur l'éco-responsabilité. Et Dieu sait que quand vous vous retrouvez dans votre appartement en métropole, votre effet sur l'éco-responsabilité va être relativement limité, hein, notamment au niveau de vos logements. Hein. Vous allez peut-être trier vos poubelles, vous allez faire ce type de choses. Mais sur l'énergie, sur ce type de choses, ça va être un petit peu plus compliqué. Donc ça aussi, c'est une tendance importante. Et puis, garder également la possibilité du télétravail. Et le télétravail, on s'est rendu compte pour les acteurs et également pour les professionnels qu'il y avait une vraie valeur, un vrai avantage de pouvoir faire du télétravail, que ce soit pour les entreprises comme pour les salariés. Et aujourd'hui, on est plutôt dans des tendances où on va avoir à peu près 3 jours de télétravail possible et deux jours sur place. Donc tout ceci, ces différentes tendances, on les a un peu nous catalysées dans notre offre, de telle façon à pouvoir permettre de pouvoir avoir des lieux permettant de pouvoir répondre à ces différentes volontés.
Co-living vert, donc éco-responsable et intergénérationnel. D'Espace, je me tourne vers vous. Comment a germé en fait le projet, voilà, dans votre esprit, puisque vous, en plus vous travaillez en commun. Comment ça s'est passé pour la création de votre entreprise?
Bon, c'est une longue histoire, je vais faire court. L'origine du projet est faite pendant la pandémie. Donc, on était tous confinés. Donc, on était tous dans les maisons et donc, il fallait la nature, on manquait de la nature, on manquait de l'espace. Et donc, et comme nous avons une maison à la campagne, plutôt dans la région de Normandie, donc on faisait toujours, on était à Istanbul, donc on n'était pas à cette maison-là.
Donc pendant le confinement, vous étiez à Istanbul et vous disiez, c'est dommage, on a finalement cette maison où on n'habite pas.
Mais vraiment, on ne profite pas, et on serait bien là-dedans pour y vivre et pour être aussi en famille, parce que on était isolés aussi. Et chacun de nos familles, de nos membres de la famille étaient dans leur maison eux-mêmes, donc on faisait les visios et tout ça. Et donc, on avait vraiment besoin de partage social et plus de l'espace. Et on a voulu toujours faire quelque chose avec Philippe ensemble, parce que moi, j'ai un parcours d'entreprise de 30 années dans le finance et le marketing. Mm-hmm. Lui, il est plutôt dans l'immobilier. Donc, on s'est mis ensemble sur ce projet-là. Et à la base, c'était un projet de rénovation des maisons de campagne en France. Mais après, on a ajouté le concept de co-living, parce que un immeuble de 200 mètres carrés à la campagne pour vivre pour une famille ou pour un couple, c'est intéressant, mais c'est très coûteux. Et il y a d'autres problèmes qui est là. Donc on a dit que il faut partager cette ambiance, il faut faire un lieu qui va plaire, mais qui doit être partagé entre les générations. aussi. Donc, ce n'est pas seulement pour les jeunes ni pour les seniors. Il faut les mélanger.
Tout
aussi.
Ensemble, quelque chose d'homogène. Donc l'expert en immobilier a rencontré l'experte en finance.
Oui, donc on se complète comme ça.
Et c'est la première fois que vous travaillez ensemble, que vous faites un projet ensemble ?
Ah oui, parce que comme vous pouvez voir, c'est notre deuxième mariage. Donc on a une vie avant et maintenant c'est notre deuxième vie. Et donc, c'est pour la première fois que, professionnellement parlant, on se met ensemble sur un projet, mais c'est sur un projet qui nous parle, parce que tout ce qu'on a mis comme caractéristique ou bien tout ce qu'on parle ici, c'est ce qu'on sait, ce qu'on a expérimenté.
Bien sûr.
Et cette expérience, ces sentiments-là qui se sont mis sur le projet et pour le faire vivre et pour l'avancer.
Mmh. Philippe, justement, c'est intéressant parce que souvent dans les projets, quand on monte une boîte, souvent on pivote. Donc peut-être c'était partir, comme l'a dit Despa, de rénovation de maison et puis de se dire finalement, c'est vrai que ces maisons, même les maisons secondaires, les gens qui en ont le savent très bien, c'est souvent sous-utilisé. Je crois que la moyenne, Bérénice, c'est entre 30 et 36 jours, si je ne m'abuse, d'utilisation dans l'année, parce que le reste du temps, on est dans sa résidence principale et puis on travaille, on n'a pas tant de jours de congé que ça. Finalement, est-ce que c'est pas aussi mieux habiter de l'espace sous-utilisé aujourd'hui qu'il y a dans les régions et sur tous les territoires?
Je crois qu'il y a deux éléments dans votre réflexion et elles sont très importantes. La première, effectivement, c'est que on a une volonté d'avoir des maisons de campagne et autres. Et effectivement, elles sont sous-utilisées aujourd'hui. D'ailleurs, vous avez des sociétés qui se mettent en place et qui permettent de pouvoir partager ces résidences secondaires. Donc ça, c'est vraiment dans une tendance qui est importante au niveau du coût, au niveau de la façon dont les choses se passent. Il y a également une autre tendance qui est très forte, c'est aujourd'hui, on a volonté de pouvoir partager. C'est-à-dire qu'on va partager quoi ? On va partager les outils qui sont à notre disposition. Ça va être une voiture, ça va être de l'électroménager, ça va être... Et ceci peut tout à fait s'adapter à la vie, directement. Pourquoi aujourd'hui se limiter à un environnement de vie qui est simplement sur un studio, un deux pièces ou autre chose, et ne pas le partager ? Donc on est vraiment dans ces deux approches. Directement, et pour reprendre ce que disait Despa tout à l'heure, la vision de la maison de campagne, puisque... Elle est assez présente. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a 5 ans, nous, on est parti à Istanbul directement pour y vivre et on a fermé cette maison. Et il y a environ 3 ans, on a commencé à avoir des gens qui ont commencé à nous appeler via LinkedIn ou autre, comme ça, nous contacter pour essayer d'acheter cette maison, ce type de choses. Donc ça nous a fait appeler une première réflexion. Et là, on s'est rendu compte, quand on a vu les agences, les demandes qui étaient présentes, on s'est rendu compte qu'il y avait une grande difficulté entre la volonté des personnes et la façon dont ils allaient le vivre. Parce que se projeter sur une maison ancienne, avec des travaux, c'est assez...
Oui, on a envie, en fait, de profiter de l'usage, mais pas forcément de...
Déjà, des contraintes qui
coûtent cher, de toutes les contraintes, c'est-à-dire peut-être potentielle rénovation. On a envie, finalement, de poser un petit peu ses valises, ne serait-ce que pour un mois, un week-end, ou encore moins, parfois. Mais que ce soit prêt à l'emploi.
Tout à fait. Donc ça a été la première réflexion. On s'est dit, écoute, est-ce qu'on ne pourrait pas aujourd'hui trouver des maisons? Ces maisons, on va les rénover, on va les livrer clé en main, meubler également, puisqu'on a une volonté de vouloir meubler sous cette forme. Ça, c'était la première base. Et puis, il y a environ 3 ans également, moi, j'avais sur les opérations Malraux que j'avais fait sur Paris, puisque c'était mon origine d'ADN au départ. J'étais dans une situation où, pour mes clients, à cette époque bénie, on avait un client, un immeuble, ce qui faisait qu'on mettait des systèmes de financement, qui faisait qu'on allait solder les crédits, qui étaient des crédits in fine à l'époque, puisque les taux étaient beaucoup plus hauts. On allait solder ces crédits par la vente d'une partie des biens. Et dans les opérations que j'avais faites avec mes clients, j'avais donc des opérations un peu atypiques sur lesquelles, dans les immeubles, j'avais des maisons ou des appartements assez grands. Et la première idée que j'avais eue au départ, c'est de me dire, je vais reprendre ces maisons, je vais les rééquiper et je vais les positionner dans une co-living haut de gamme, déjà à l'origine. Et puis la pandémie est arrivée là-dessus, la particularité sur Paris et autres. Et en fin de compte, ces deux idées sont venues, à un moment donné, se confronter et se synthétiser pour dire, aujourd'hui, nous allons faire différentes choses. On va premièrement, rénover des maisons anciennes. Donc, on va pas détruire et reconstruire. On est vraiment dans le reconditionnement, hein, si on reprend un terme qui est aujourd'hui à la mode, puisqu'aujourd'hui, on parle même plus de voitures d'occasion, on parle de voitures reconditionnées. Donc, on va parler donc d'immeubles ou de maisons qui vont être reconditionnées.
Comme les téléphones.
Oui.
Presque
voilà.
Aussi simple.
Les ordinateurs, téléphones.
Voilà, du black market, autre. C'est ce qu'on peut citer. Donc voilà la première chose. Donc on va rénover ces maisons, donc on va garder leur identité et leur positionnement dans la ville. et dans la campagne. Ça, c'est un premier point. On va amener directement la possibilité de pouvoir avoir des maisons qui soient éco-responsables. Donc, on va avoir des photovoltaïques, on va récupérer ces réseaux de pluie, enfin, ce type de choses. Non pas dans l'idée de faire des économies fiscales, parce que souvent, on est sous cet angle-là, mais surtout, simplement, de se dire qu'on va essayer de moins utiliser du carbone de ce point de vue. Donc, ça, c'est le deuxième niveau. Le troisième niveau, c'est on va les rénover de façon haut de gamme et, en plus, on va aujourd'hui mettre un mobilier qui va correspondre à ça. Et on a des partenariats avec des acteurs importants pour pouvoir le faire, qui ont été très sensibles à ça. Et puis, dernière chose, on va amener différents services. Ces services vont être des services qui vont bien évidemment passer par le ménage, par le jardinage, par la serre et le fait qu'on va avoir la possibilité d'avoir ces légumes à disposition. Mais c'est également tout ce qui correspond à la vie sociale. Parce qu'effectivement, quand vous allez partir directement à la campagne, même si vous êtes à une centaine de kilomètres, si on parle de Paris pour les premières opérations, sur ça, on ne doit pas se couper totalement.
Bien sûr.
On a aujourd'hui des éléments essentiels. Et l'essentiel, c'est la culture. Et la culture, effectivement, il faut pouvoir la faire venir. Donc, on va amener différents types de services qui vont également être mis à disposition pour nous, ce que nous, on appelle, nos co-livers, mais nos cool-aliveurs.
Des cool-aliveurs.
Des cool-aliveurs.
Ils sont cool ou non, c'est comme le...
Ils sont cool. Et puis surtout, ils partagent vraiment des idées communes. Et c'est ça qui est l'élément essentiel. C'est de pouvoir faire cohabiter des personnes qui vont avoir la même petite philosophie de vie. Au-delà des âges, c'est qu'il faut qu'ils se sentent dans ce partage directement. Pour donner autre chose dans ces maisons, on va mettre des tiny houses qui vont être à disposition.
Des
chambres d'amis, pardon. Des maisons annexes. Pourquoi ? Parce qu'on va donner la possibilité aux co-livers de pouvoir faire partager cette expérience.
D'amener leur tribu aussi.
Voilà, à d'autres personnes. C'est-à-dire, mais pas ingérer dans la communauté. Donc, on va avoir quelque chose en annexe directement. Ils viendront partager.
Oui, parce qu'en plus, généralement, il y a du terrain. Donc, on peut mettre comme ça des.
On est en moyenne sur des maisons qui vont avoir à peu près 2000 mètres carrés de terrain. Donc, effectivement, on va avoir ce type de service.
Ah oui, vous avez vraiment pensé à tout, en fait.
On a pensé à beaucoup de choses. Maintenant, à tout, les choses sont en développement. Aujourd'hui, on a également mis des voitures électriques. On a un partenariat aujourd'hui avec des sociétés assez importantes de ce point de vue-là, où on va mettre des voitures électriques, on va mettre des vélos électriques à disposition. On va ouvrir ces voitures à la communauté de communes, parce que quand vous êtes à la campagne, aller louer une voiture électrique ou même venir vous rebrancher, c'est quelque chose de compliqué. Donc ça aussi, on le met en place. C'est-à-dire qu'en gros, on va créer un écosystème. Et comme sur la façon dont on va commercialiser ces maisons, après on pourra rentrer dans les détails fiscaux si on doit le faire, on va être sur des lots. On va être sur 5-6 premières maisons qui vont être à une centaine de kilomètres de Paris. Donc on va être sur des lots et ces maisons vont être séparées les unes des autres environ à 8 kilomètres. Donc on crée une communauté également, un écosystème sur ça.
Elles sont maillées finalement.
C'est-à-dire qu'on va avoir entre 6 et 7 chambres par maison. Donc là, vous allez avoir à peu près 36 à 40 ou 50 personnes qui vont être mises dans cet environnement-là et qui vont partager des choses. Ce qui nous permet de pouvoir donner également les services, puisqu'on va avoir une conciergerie à disposition 24-24 pour ces personnes, qui vont pouvoir amener l'animation dont on a besoin et également ce flux, je dirais, de véhicules à disposition.
On va justement faire le point sur ces cool-alivers, ces gens cool qui habitent les cool-house. Justement, quels seraient les freins quelle est la cible justement que vous targetez quelles sont les personnes qui pourraient être intéressées? Quel est le prix aussi? On va en parler, c'est juste après la première pause musicale. À tout de suite avec Philippe Gabriel et Despa Gabriel, ce sont les patrons de Coola Group.
Un terrain vague de vagues clôtures, un couple divague sur la maison future. On s'endette pour 30 ans, ce pavillon sera le nôtre et celui de nos enfants corrige la fin d'enceinte. Les travaux sont finis, du moins le gros œuf, ça sent le plâtre et l'enduit et la poussière toute neuve. Le plâtre et l'enduit et la poussière toute neuve. Des ampoules à nu pendent des murs du plafond. Le bébé est né, il joue dans le salon. On ajoute à l'étage une chambre de plus. Un petit frère est prévu pour l'automne. Dans le jardin, les arbres aussi grandissent. On pourra y faire un jour une cabane. On pourra y faire un jour une cabane.
Les enfants ont poussé, ils sont trois maintenant. On remplit sans se douter le grenier doucement. Le grand habite le garage pour être indépendant. La cabane, c'est dommage, est à l'abandon. Monsieur rêverait de creuser une cave à vin. Madame préférerait une deuxième salle de bain. Ce sera une deuxième salle de bain. Les enfants vont et viennent chargés de linge sale. Ça devient un hôtel, la maison familiale. On a fait un bureau dans la petite pièce d'en haut et des chambres d'amis, les enfants sont partis. Ils ont quitté le nid sans le savoir vraiment. Petit à petit, et vêtements par vêtements. Petit à petit, et vêtements par vêtements. Ils habitent à Paris, des apparts sans espace. Alors qu'ici, il y a trop de place. On va poser, tu sais, des stores électriques. C'est un peu laid, c'est vrai, mais c'est plus pratique. La maison somnole comme un chat fatigué. Dans son ventre ronronne la machine à laver. Dans son ventre ronronne la machine à laver. Les petits enfants espérés apparaissent. Dans le frigo, on remet des glaces. La cabane du jardin trouve une deuxième jeunesse. C'est le consulat que rouvrent les gosses. Le grenier sans bataille livre ses trésors. C'est pas nos petits cow-boys aux petits ambassadeurs qui colonisent pour la dernière fois la modeste terre promise. Quatre murs et un toit.
Alors on vient d'écouter Benamar, Quatre murs et un toit sur Radio Patrimoine.
L'hebdo Patrimoine, l'émission dédiée aux professionnels de la finance sur Radio Patrimoine.
On découvre la proposition de Koula Group ce matin dans l'hebdo Patrimoine. C'est du co-living éco-responsable, pardon, intergénérationnel, plutôt haut de gamme, on le disait, qui vise aussi, qui a une certaine vision voilà, de ce fameux co-living qui a le vent en poupe. Nos invités Despa Gabriel et Philippe Gabriel, donc les patrons de Koula Group. Une question justement, Despa, sur les clients, les premiers clients. Je ne sais pas si vous avez, puisque vous avez une première preuve de concept avec votre maison. Comment ça s'est passé?
Donc, on n'a pas encore concrètement réalisé une maison.
C'est en cours.
Mais pour dire, pour notre cible de Koula Liver, on a fait une étude de marché et on est aussi en train de faire un testing avec un acteur important dans le co-living, c'est le Keys Management, donc leur département de qui nous accompagne pour faire le testing sur nos cibles sur le projet. Et donc nous avons ciblé les co-livers qui n'existent pas actuellement, parce que le co-living classique s'adresse pour le moment plutôt aux étudiants ou bien aux jeunes actifs qui sont au début de leur carrière.
Qui sont assez nomades, qui voyagent.
Qui sont plutôt... qui ne demandent pas, comment dire, un très grand confort ou bien... ils sont plutôt dans leur positionnement de leur carrière et de leur vie. Mais pour les Koula Liver, notre objectif, c'est de communiquer, de s'adresser aux gens entre 30 ans et 65 ans.
Donc avec potentiellement des familles, par exemple
Pas de famille. Parce que comme c'est une ambiance de partage, nous sommes plutôt pour les gens qui vivent seuls, qui sont célibataires ou bien divorcés ou bien en couple, mais sans enfants.
Les enfants ne sont pas les bienvenus.
Et
ça changerait le concept.
Ils seront dans la petite maison à côté, ils sont planqués.
Oui, et parce que avec les enfants, c'est un autre concept.
C'est différent,
qu'il faut créer.
Tout à fait.
C'est d'autres services qu'on peut donner. Ouais. Mais ici, on a visé les gens plutôt qui vivent seuls et qui sont en télétravail actif.
Ouais.
Pas des retraités. Ils peuvent être avoir des retraités, mais qui sont
qui ont besoin en fait de d'être en
oui,
communauté
et qui partagent trois valeurs que nous voulons communiquer, c'est la nature, le respect de la nature, le partage et le bien-être. Toutes ces valeurs seront mises et seront vécues avec eux dans les maisons Kulla.
Et justement, alors, ces valeurs, quand vous allez choisir vos futurs Cool Leavers, comment vous allez faire si vous avez de nombreuses demandes pour être sûr que ça matche entre chacun des habitants? Parce que ça demande quand même, bon, après on reste humain, hein, il y a forcément parfois des personnes qui sont en désaccord. Pour faire en sorte que ça marche, comment vous allez les choisir? Les sélectionner.
Alors effectivement, il va y avoir différentes étapes. Premièrement, il va y avoir des sortes de questionnaires, même si c'est un peu brut de le dire de cette forme-là, de telle façon à voir aujourd'hui si les gens partagent véritablement ces choses-là. Et c'est pas simplement une déclaration, mais c'est vraiment quelque chose de vécu. Il va y avoir une sorte de cooptation également qui va se mettre en place sur ça, parce que pour donner un ordre d'idée, les séjours vont se situer au minimum à 6 mois, 1 an, voire plus. Et donc il va y avoir un certain de turnover, hein, donc les choses vont bouger, donc il faut également que les gens qui vont arriver soient acceptés par les gens qui sont déjà sur
les autres, ouais.
Il y a une période minimum justement, ou maximum?
Il n'y en a pas, mais elle va se faire naturellement. Elle va se faire naturellement parce qu'on ne va pas partir là pour 3 jours, une semaine ou autre. Même si aujourd'hui, on a déjà des demandes où des gens nous disent, écoutez, puisqu'on parlait des résidences secondaires, nous disent, est-ce qu'on peut venir simplement, 3 jours ou 4 jours
La semaine de vacances.
Différemment.
Oui. C'est vrai que la frontière pourrait être mince. On pourrait se dire, tiens, cette maison est à disposition, vous faites le mois, on pourrait faire une semaine et venir. Non. C'est pas le but.
C'est pas le but, mais à partir du moment où vous respectez dans ce budget et que le budget correspond à ce que vous voulez faire, pourquoi pas? Les choses sont ouvertes, les choses sont possibles de ce point de vue.
Oui, je crois que la moyenne de résidence, c'est 7 mois en fait en co-living.
Oui,
donc
c'est
quand même plutôt long. Donc il y en a qui restent plus, il y en a qui restent un petit peu moins. Mais,
On pense à une population en particulier, on peut se projeter, hein, notamment parmi des gens qui sont 100% télétravail, c'est souvent des professions, des techs. Hein, des développeurs, etc., qui peuvent se dire, tiens, moi j'ai envie d'aller passer 6 mois à la campagne, ou le temps de ma mission, pourquoi pas, hein, j'ai une mission avec je sais que mes revenus sont assurés, pourquoi pas, plutôt que de travailler dans mon studio parisien, par exemple, ou bordelais, aller un petit peu au vert. Ça, c'est possible, mais il y a une contrainte, évidemment, c'est Internet, la connexion. On dit que maintenant, c'est un des flux plus importants, même que pratiquement l'eau courante ou l'électricité.
Alors, il y a 2 choses qui vont sauver ça, hein, vous voyez, on parle de l'Ukraine, là, aujourd'hui, et effectivement, on se rend compte que même avec les coupures Internet, on se rend compte qu'aujourd'hui, ils arrivent quand même à pouvoir communiquer. Il y a quelque chose qui va arriver assez rapidement dans le monde, c'est la particularité d'avoir les connexions Internet par satellite.
D'accord.
Donc aujourd'hui, effectivement, on est limité avec la fibre, avec ce type de choses, et notamment en campagne. La France n'est pas, de ce point de vue-là, complètement équitable. Mais les connexions Internet par satellite vont permettre assez rapidement, hein, je pense dans les 2-3 ans qui viennent, avec ce qui est prévu, de pouvoir passer outre de ça. Donc vous aurez quasiment partout une connexion Internet assez forte et en haut débit.
Donc et pour vous, c'est déjà le cas, ou pour l'instant, c'est quelque chose à tester?
Alors, tout dépend les endroits où on se retrouve, les villes où on se retrouve, mais effectivement, on est plutôt sur quelque chose qui permet d'avoir des flux Internet importants et de pouvoir les partager.
On parle également des coûts, c'est important, pour les Cool Leavers, celui qui veut faire appel à vous dans les prochaines maisons qui vont sortir. Comment ça se passe? Combien ça coûte?
Alors, combien ça coûte? Alors, écoutez, on a un prix moyen en moyenne qui va se trouver entre 950 et 1000 euros de location pour avoir la chambre et toutes les parties communes et les services qui sont annexes sur ça.
Donc, avec, tout compris?
Tout compris.
Je peux conduire la Tesla à ce prix-là, qui est dans le garage ou pas?
Vous allez pouvoir conduire la Tesla ou les Waze, où effectivement, est possible, avec une certaine limite de temps. Et à partir du moment où vous allez l'utiliser le plus, effectivement, vous allez avoir un coût qui va venir en annexe, comme ce qu'on connaît aujourd'hui, à l'heure actuelle, hein, de ce point de vue. Donc effectivement, ouais, tous les services vont être compris. Après, il y aura les services à la carte. Et les services à la carte, effectivement, on ne va pas obliger tout le monde d'aller faire son cours de yoga ou de réflexion ou de partager le cours de cuisine qui va arriver avec un chef qui va venir faire un repas une fois par mois. Donc, de ce point de vue-là, les choses seront après à la carte.
Et la superficie des chambres, vous avez une idée déjà ?
Les chambres vont faire en moyenne environ une vingtaine de mètres carrés, entre 15 et 20 mètres carrés. Elles vont avoir systématiquement une salle de bain et des toilettes, de telle façon à avoir complètement son intimité.
On partage pas les salles de bain, non. Tout ça. Okay.
On partage pas ça. Par contre, on va avoir des parties communes qui vont être 100 et 150 mètres carrés. Ouais. Cuisine, effectivement.
Cheminée. Ça fait rêver, là, surtout avec le temps un peu frais.
Aussi, il faut ne pas oublier le jardin.
Bien sûr.
On a un terrain au moins de 2000 mètres carrés pour chaque maison. Et donc, ce jardin-là sera aussi meublé pour que les cool livers aient leur temps à dîner, à déjeuner, à faire leur sport, leur yoga sur la pelouse.
Vous prévoyez des potagers dans le jardin ?
Ah oui, ça c'est vraiment c'est mon rêve. C'est toutes les maisons auront un potager. Donc comme on a aussi un jardinier qui est en permanent responsable de chaque maison. Donc, les potagers et les serres aussi seront maintenus et aussi ils seront en communication avec les cool livers pour faire pousser les légumes ou bien les fruits qu'ils veulent avoir selon les régions. Mais je voudrais aussi ajouter que il y a une spécialité ou bien une caractéristique qui est très importante pour nous. Et on a fait une touche d'art pour chaque maison. Donc chaque maison aura une œuvre d'art en soi. Et nous allons nommer les maisons selon l'œuvre d'art qu'ils vont posséder.
En fonction de l'œuvre d'art.
Oui. Et donc, ce n'est pas seulement la nature. On est isolé, on regarde les arbres, les oiseaux voler. Donc,
bon, c'est sympa aussi. Hein.
Oui, bien sûr. Mais il faut aussi, ne pas être très loin de l'art, de la culture, de la vie sociale. Donc, et on sait que l'art, c'est quelque chose qui peut donner une autre qualité ou bien une autre touche à la maison Kula et au Coliver.
Et alors moi, j'ai une question. On est en France, l'art de la table est très important. Qu'en est-il, en fait, de la nourriture ? Parce que la cuisine sera en commun. Ouais. Est-ce que la nourriture sera en commun aussi ou chacun fera ses courses de son côté et stockera dans la cuisine ?
Alors, ils auront possibilité, effectivement, de faire leurs courses de façon individuelle. Pour reprendre ce qu'on vous disait tout à l'heure au niveau des services, on va faire venir un chef une fois par mois. Où ils auront la possibilité de s'inscrire. Et effectivement, il y aura une cuisine commune qui sera faite à ce moment-là. Mais ça sera quasiment le seul moment où la cuisine va être commune de ce point de vue. Après, les gens vont s'organiser. Hein. Chacun va avoir ses habitudes alimentaires et vouloir le faire. Mais ils vont avoir tout à leur disposition pour pouvoir le faire, puisqu'on va... on a un partenariat également avec un grand groupe au niveau de l'électroménager, plutôt positionné haut de gamme et plutôt éco-responsable également. Pour donner un ordre d'idée, tout l'électroménager qui est la vaisselle ou lave-linge va avoir été équipé de récupération de micro-particules, de telle façon qu'on ne puisse pas rejeter toutes les micro-particules de plastique ou autres à l'intérieur, à l'extérieur de la maison par les voies d'eau. Donc, ils vont vraiment avoir tous à leur disposition pour pouvoir le faire. Après, c'est la façon dont ils vont s'organiser. Il n'y a pas une obligation
d'avoir...
Eux qui
décideront au final.
Oui, tout à fait.
Ouais, c'est vrai que c'est très important comme remarque, Bérénice.
Je pense aux choses indispensables.
On connaît, pour ceux qui ont fait un peu de colocation, le drame du frigo avec ses petites boîtes.
C'est ça. Qui a piqué mon yaourt.
Par contre, on va être le cavor. C'est-à-dire qu'on va leur donner la possibilité de pouvoir avoir des courses et des fournisseurs qui vont être dans le périmètre que l'on va également définir.
D'accord.
On a encore beaucoup de questions. On va faire une deuxième pause musicale et on va parler investisseurs juste après, puisqu'il y a une deuxième partie. Il y a ceux qui y habitent, mais ceux aussi qui peuvent investir. C'est tout de suite dans l'Hebdo Patrimoine.
It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot. Why, think of everything you've got, for you will still be here tomorrow, but your dreams may not. Can I try to explain? When I do, he turns away again. It's always been the same, same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go. Change, just sit down, take it slowly. You're still young, that's your fault. There's so much you have to go through. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. All the times that I've cried, keeping all the things I knew inside. It's hard, but it's harder to ignore it. If they were right, I'd agree. But it's them they know, not me. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go.
On vient d'écouter Father and Son, magnifique de Youssouf et Cat Stevens.
L'Hebdo Patrimoine, l'émission dédiée aux professionnels de la finance sur Radio Patrimoine.
Nous sommes avec les membres fondateurs de Kula Group, Despa Gabriel et Philippe Gabriel, qui nous expliquent ce concept de co-living éco-responsable, intergénérationnel, durable. Bref, c'est formidable, on a déjà envie d'y aller. On va s'intéresser au côté un peu finance maintenant, avec Philippe qui connaît ça sur le bout des doigts. En vous écoutant, j'avais une question, c'était, vous nous avez parlé de votre expérience, votre maison qui était en Normandie.
Oui, c'est ça.
Voilà, qui est sous-utilisé et qui pourrait servir. On peut imaginer des gens justement qui peut-être ont aussi une belle demeure, mais qui ont un peu des problèmes à les financer. Est-ce qu'ils pourraient vous la confier pour qu'elle soit exploitée par Kula Group ?
Complètement, complètement. On a un projet aujourd'hui à côté de Deauville qui est dans cet esprit-là, où vous aviez une maison de famille qui était sous-exploitée, puisqu'effectivement il y a une surface assez importante, et puis mettre des travaux, le retour sur investissement, c'est chose de compliqué de ce point de vue. Donc il nous a interrogé, et aujourd'hui on est en train de finaliser une opération qui va permettre, donc ça va être le deuxième emplacement que l'on va faire dans, en région, donc plutôt en région près de Deauville, où effectivement on va avoir une partie de la famille qui va occuper une partie de la maison, mm-hmm. et l'autre partie, elle va être exploitée dans le système de co-living. Et ils vont également, de ce point de vue-là, avoir une valorisation également de leur actif.
Bien sûr, puisqu'on sait bien qu'en plus qu'une maison qui est vide, elle se dégrade beaucoup plus rapidement, déjà quand elle n'est pas chauffée.
Et puis là, est-ce qu'ils n'ont pas, on va ramener une piscine, on va ramener des choses, on va ramener un spa, enfin on va ramener des choses qui font qu'effectivement on va valoriser totalement leur maison, et ils vont beaucoup plus pouvoir en profiter, en plus avoir un rendement, ce qui n'est pas négligeable sous cet angle-là, ouais. Pour pouvoir le faire.
Donc c'est une charge, ça va devenir un actif peut-être rentable, et en tout cas qui se valorise. Vos investisseurs, du coup, cette partie est intéressante aussi, puisqu'il y a ceux qui vont habiter dans le co-living, mais il y a aussi ceux qui vous accompagnent. Vous proposez effectivement, c'est sûr, pour amorcer la pompe et développer ce business et développer toutes ces cool houses, il vous faut de l'argent. Comment ça se passe au niveau des financements?
Alors, on a réfléchi à trois axes, presque quatre, hein. De ce point de vue, vous avez la clientèle classique et traditionnelle que moi j'ai pu avoir, qui sont des investisseurs particuliers, qui vont vouloir acheter des maisons pour la valorisation de cet actif. Et si on regarde la valorisation de cet actif, à partir du moment où vous avez une maison, et cette maison, elle va être, en respectant les normes de, on parle de 2050, mais même d'avant, et même de plus tard, de ce point de vue-là, c'est des coûts relativement importants. Donc on va avoir des maisons qui, pour eux, vont être complètement rénovées, sous cette forme-là, avec en plus une rentabilité qui va être intrinsèque sous cette forme. Donc après, la façon de pouvoir le faire, puisque chaque maison va être une entité. Donc chaque maison peut avoir sa touche fiscale. Je peux faire une maison qui va être axée dans le cadre du déficit foncier. Je peux l'organiser sur ça, même si après, moi, je vais l'exploiter sous forme de location meublée. C'est tout à fait possible de pouvoir l'organiser. Je peux avoir une maison qui va être simplement dans le cadre du loueur meublé, que l'on connaît fort bien aujourd'hui, donc avec tous les différents avantages et particularités du loueur meublé. Et je peux également avoir des maisons qui vont être sous forme de démembrement, c'est-à-dire que les investisseurs vont acheter la nue propriété et nous allons revendre l'usufruit directement à des institutionnels. Donc ça, c'est les trois angles possibles. Chaque maison peut avoir cette identité-là et elle ne changera pas dans son exploitation, puisque l'exploitation sera toujours la même. Donc ça, c'est le premier point possible. Deuxième point possible, puisque c'était des banques qui nous ont demandé ça, le montant total d'une investissement d'une maison, on va dire qu'en moyenne, travaux finis, travaux inclus et autres, et mobilier inclus, on est aux alentours de 800 000 euros. Donc c'est à peu près ce montant-là. Sur cette base-là, on va se retrouver avec 6-7 chambres à l'intérieur, donc également les lotir, c'est-à-dire qu'on peut faire une copropriété, mmh. et on donc peut avoir accès à une chambre plus ses parties communes, un peu comme dans l'hôtellerie qu'on a connue avant, aux alentours d'environ 120 000 euros. Donc ça, c'est les possibilités d'investissement. Après, je parlais de la rentabilité. Si on regarde maintenant sur vers quoi on va tendre, puisqu'on est sur des montants d'investissement, puisqu'on veut partir sur à peu près 200 maisons en France, mais également en Europe, hein, parce qu'il y a une particularité qu'on n'a pas indiquée tout à l'heure. Volontairement, on est bilingue, hein, sur les différents acteurs de l'exploitation. Donc, on est ouvert également vers l'étranger. Et on va s'ouvrir vers les parties européennes. Donc, on va à peu près avoir une centaine de maisons en France et des autres directement en Europe. Maintenant, si on regarde au niveau de la rentabilité sur ça, on va avoir une rentabilité aujourd'hui qui va tourner aux alentours de 3-3,5 si on regarde la rentabilité locative. Après, tout dépend de votre rémunération fiscale sur ça. Et puis, après avoir la valorisation de l'actif. Alors, si je projette à peu près ce type de choses, on a un retour sur investissement total de l'opération environ à 13 ans. C'est à peu près la moyenne que l'on peut avoir. Ce qui est assez important aujourd'hui, quand on part sur des biens de qualité, moi qui ai fait beaucoup d'opérations Malraux et autres, les retours sur investissement étaient un peu plus longs.
À 25-30 ans.
Oui.
Au moins. Ouais. Du coup, les premiers investisseurs là, sont séduits. Comment ils accueillent ce projet un petit peu hors des sentiers battus, on va dire?
Alors, comment vous dire, pour être tout à fait clair, comme c'est quelque chose, comme le disait Despa tout à l'heure, qui est très incarné pour nous, aujourd'hui, les personnes, à partir du moment où on leur propose, on leur montre ce que l'on va faire et autres, vont partir sur un système de confiance et de volonté. Aujourd'hui, ils savent ce qu'on a pu faire auparavant, ils savent comment on l'a organisé, ils partagent les mêmes valeurs également pour pouvoir le faire. Donc aujourd'hui, on a pas beaucoup de réticence à ne pas aller plus loin. Ce qui est un petit peu plus compliqué, j'avouerais, aujourd'hui, c'est de partir sur la partie où nous, on veut partir sur des opérations que l'on maîtrise. Donc, on va être dans une opération de marchand de biens au départ, c'est-à-dire qu'on va acheter les maisons, on va faire nos projets, et après, on va vendre ces maisons. Donc, pour pouvoir acheter ces maisons, il va falloir les porter, puisqu'on ne va pas porter les travaux, on ne va pas porter le mobilier, puisque c'est les clients qui vont les acheter. Aujourd'hui, on doit organiser, c'est pour ça qu'on fait un partenariat notamment avec KS Curiosities sur ça, pour décider les business angels et pour décider également les partenaires bancaires de pouvoir nous accompagner sur l'achat des maisons. Voilà à peu près où on se trouve à l'heure actuelle.
Ben voilà, on en sait un petit peu plus sur Koula Group et ces Koula House. Vous nous avez parlé des différents noms d'ESPA, on peut les citer déjà ? Vous les avez en tête?
Pour investissement, je voudrais ajouter quelque chose de plus. Donc, maintenant, les investisseurs sont plutôt à la recherche des investissements verts, c'est-à-dire qui font un impact positif à l'environnement et tout ça. Et ils sont sensibles à ça.
Oui.
Mais tout le monde parle de éco-responsabilité de la nature, mais parfois je trouve ces mots-là qui sont très romantiques, mais qui n'ont pas beaucoup de profondeur. Et pour Koula, on a créé un système qui mesure notre éco-responsabilité et qui peut donner concrètement à quel point on a un impact à chaque phase de notre projet. Notre projet commence par retrouvailles de la maison, après la rénovation de la maison, reconditionnement de la maison, avec le nouveau vocabulaire que nous avons. Mmh. Et après, le contact, la communication au Koula Liver et la vie dans les maisons. À chaque étape, on a un système de mesure où on voit à quel point on a bien fait pour minimiser l'éco-responsabilité. Est-ce qu'on a avec tous les matériaux qu'on a utilisés, avec tout le système qu'on se met en place, donc ça aussi ce sera une communication pour les investisseurs pour savoir leur investissement à quel point il est éco-responsable, comment avec leur investissement ils ont fait un impact sur la nature et sur la planète, et ainsi que les Koula Liver dans leur vie quotidienne. Chaque jour, ils vont recevoir les messages à quel niveau et ils sont vraiment dans la nature. Ils font quelque chose de positif pour la nature.
C'est pas du greenwashing.
Exactement, on est complètement à l'opposé et c'est très bien. Et ensuite, on est persuadé que ça va rencontrer, en tout cas, un certain public. Un grand merci au cofondateur de Koula Group, d'ESPA, Gabriel. Merci à vous, la directrice générale, Philippe Gabriel, donc le président. On suivra bien sûr votre initiative sur l'Hebdo Patrimoine. Merci Bernice David d'avoir accompagné pour cette édition de l'Hebdo. Merci à Jason Pignon qui l'a réalisé, Sophie Bernard qui l'a préparé. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Hebdo Patrimoine. Excellente semaine à tous.
L'Hebdo Patrimoine, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.